Regard sur le Grand Victoria est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire, seul organisme mandaté pour soutenir financièrement les radios communautaires et de campus du pays. Regard sur le Grand Victoria. Votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité municipale. À retrouver tous les mercredis à midi et en rediffusion le samedi à 10h sur les ondes de Radio Victoria 107.9 FM. Mais aussi en balado sur radiovictoria.ca.
Bonjour à tous, merci chers auditeurs d'être fidèles au 107.9 FM. C'est François Macon qui vous accompagne pour votre nouvelle émission de Regard sur le Grand Victoria. Et aujourd'hui, ensemble, je vous embarque dans un beau voyage. Un voyage vers le futur, vers notre avenir. Un voyage également où nous allons nous tourner vers le passé et parler du présent. Un voyage sur le rail, un voyage dans le train. Un voyage pour parler ensemble du projet de réouverture du couloir ferroviaire de l'île de Vancouver. Si aujourd'hui les herbes folles poussent entre les belles traverses de bois qui pour les plus anciennes ont été posées sur le chemin de fer en 1883 par Sir Robert Dunsmuir et que certaines lames du rail sont parfois teintées de rouille, nous avons la chance sur notre belle île d'avoir ce magnifique tracé ferroviaire de près de 300 km de long, partant de Victoria et allant jusqu'à Courtenay, en passant par Nanaimo et jusqu'à Port Alberni. Alors pourquoi, allez-vous me demander, un tel sujet prendrait place dans notre émission d'actualité du Grand Victoria? Eh bien parce qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible d'envisager la réouverture de ce couloir ferroviaire qui est fermé depuis maintenant 2011 et dont on doit la survivance aux communautés des Premières Nations dont le tracé traverse le territoire et qui, depuis cette date, porte le projet, avec la Island Corridor Foundation, de réouverture du rail. Je le disais en introduction, c'est aussi un voyage vers le futur, car ce tracé, c'est un atout formidable, un atout à la fois économique, écologique, qui pourrait permettre de soulager le trafic urbain dans la région du Grand Victoria, en réduisant drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, en se substituant au trafic automobile, pour un projet de petit tramway de ville, ou de mini skytrain, comme on peut l'appeler. Ce train pourrait aussi prendre le caractère d'un intercité pour désenclaver les villes du centre de l'île et du nord. C'est aussi un formidable atout touristique pour des gens qui voudraient voyager et découvrir l'île autrement à travers ses fabuleux et multiples paysages. Et pour ce voyage que nous allons faire ensemble, vont embarquer avec nous trois passagers, trois invités. Tout d'abord, Daniel Arbour, qui est un des directeurs du conseil d'administration de la Island Corridor Foundation. Il représente le district régional de la vallée de Comox. Il est francophone et nous a accordé une longue et éclairante entrevue. Nous recevrons également Jean-Thomas Bernard, qui est professeur en sciences économiques à l'Université d'Ottawa. Et puis Margot Landry, notre dernière passagère, qui habite à Victoria depuis 1975 et qui a eu la chance de plusieurs fois monter à bord de ce vénérable train. Regard sur le Grand Victoria. Entretien. Et je reçois maintenant Monsieur Daniel Arbour. Monsieur Arbour, bonjour.
Bonjour, ça me fait plaisir de vous joindre.
Eh bien, également, merci en tout cas infiniment déjà pour votre temps et d'avoir pris ces quelques minutes pour répondre à notre invitation pour cette émission consacrée à la réouverture du couloir ferroviaire dans notre belle île de Vancouver. Monsieur Arbour, vous êtes représentant au conseil d'administration du Island Corridor Foundation. Vous êtes représentant du district régional de la vallée de Comox.
Et vous êtes un des rares francophones qui siège à la Iceland Corridor Foundation. Donc merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Vous voulez peut-être bien commencer par nous présenter le rôle de la fondation aujourd'hui. Quel est son rôle et quels sont vos objectifs?
Oui, d'accord. Alors, l'historique du tracé ferroviaire entre Courtenay et Victoria date en fait de la fondation de la province. Ça fait plus de 100 ans, 120 ans que le chemin de fer est en place et ça faisait partie du développement de l'île de Vancouver à l'époque. Il a été opéré pendant des années jusqu'à la fin des années 90 par des compagnies privées. Au début des années 2000, les compagnies privées ne voulaient plus réinvestir dans le tracé de chemin de fer. Alors, à l'époque, les Premières Nations de Victoria jusqu'à Courtenay ont approché les districts régionaux et les gouvernements locaux pour faire un partenariat pour obtenir ce tracé. Et ça a été, ils ont eu du succès et ils ont créé une fondation pour garder, si vous voulez, cet atout pour la société. Ils l'ont opéré pendant à peu près 9 ans avec Via Rail. C'était une petite opération. Il y avait à peu près un train par jour qui faisait le parcours entre Courtenay et Victoria. Mais c'était évident que le chemin de fer était déjà en mauvais état. Alors, il a fallu arrêter tout ça en l'an 2011. Et depuis ce temps, la Fondation fait du lobbying avec la province et les gouvernements fédéraux pour réinvestir dans ce tracé et le réétablir pour servir les besoins du futur.
Alors justement, les besoins du futur, c'est un magnifique projet. Il y a plus de 230 km de voies ferroviaires qui existent aujourd'hui. Alors même si l'infrastructure est un petit peu en déliquescence, mais elle existe en tout cas, elle a le mérite d'exister. Et donc depuis 2011, effectivement, le chemin de fer est inactif. Mais depuis 2011, depuis cette décennie, la province a multiplié les rapports pour estimer le coût de remise en service de ce chemin ferroviaire. Et le dernier fait état d'un montant global estimé à plus de 700 millions de dollars. Et par contre, vous, à Iceland Corridor Foundation, vous dites qu'il est possible de réouvrir le chemin de fer pour moins de frais que cela.
Oui, en effet. Alors, on était très contents que l'étude a été mise à jour il y a à peu près une semaine ou deux par la province. Ils ont fait une étude compréhensive du coût de rétablir le chemin de fer. Et ils ont offert trois scénarios, si vous voulez, par rapport et au niveau de service et jusqu'à où le train se rendrait. Alors, il y a des estimés pour chaque niveau de service. Et il y en a un qui se concentre plus autour de Victoria pour un train qui serait un peu comme le SkyTrain, si vous voulez. Alors, un niveau de service assez élevé avec possiblement 12 à 24 trains par jour entre Langford et Victoria. Après ça, il pourrait aussi garder le train un peu comme il était à l'époque, juste comme un train régional, si vous voulez, qui aurait moins de coûts et qui pourrait desservir jusqu'à Nanaimo ou jusqu'à Courtenay ou jusqu'à Port-Alberni. Alors, l'étude est assez compréhensive et offre plusieurs options que nous pouvons considérer. Alors, la Fondation, quand elle a vu cette étude, elle a dit, évidemment, la plupart des journaux et des autres personnes ont attrapé les gros chiffres qui seraient le rétablissement à plein fond, si vous voulez, et immédiat. Mais dans notre sens, on attend un peu encore des études de coûts-bénéfices par rapport à Victoria ou ailleurs, et on reste très ouvert à suivre ça en étapes, si vous voulez. Alors peut-être commencer avec un rétablissement minimal, si vous voulez, mais sécuritaire. Et ensuite, peut-être investir dans les années futures pour augmenter. Alors, c'est des discussions qui vont se continuer pendant les prochains mois, je suis certain.
Donc, vous évoquez effectivement le dernier rapport de la province qui est avec trois scénarios alternatifs, avec des dimensions plus ou moins globales, une restauration complète et à pleine échelle, ou des projets intermédiaires qui pourraient effectivement constituer en soi des étapes. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail de ces trois différents scénarios, de ces scénarios progressifs?
Oui, absolument. Alors, pour le parcours Langford à Victoria, si on voulait une option, si vous voulez, très high-tech et qui a plusieurs trains, alors le coût, évidemment, est associé avec ça. Ça prendrait des investissements et pour les plateformes et pour le chemin de fer pour les traversées des chemins et tout ça. Alors, le montant est quand même relativement élevé. Ce serait probablement entre 500 et 700 millions de dollars à investir. Alors, je suis certain qu'il va y avoir des considérations par rapport aux coûts et bénéfices de prendre cette approche. On sait que la province va compléter une étude de transportation pour la région sud de l'île de Vancouver, incluant Victoria. Ça devrait sortir dans le prochain mois ou deux. Et ils vont regarder, évidemment, dans un contexte global, si cet investissement aurait du sens par rapport à d'autres formes d'investissement comme BC Transit, avec les autobus et d'autres choses. Mais au moins, on a un chiffre pour voir un train à assez haute vitesse. Il y a une régularité fréquente. Maintenant, on a un chiffre concret avec lequel on peut comparer d'autres options. Ensuite, les deux autres scénarios qui ont été présentés, il y en a un qui se rendrait vers Nanaimo et Courtney. Et ça, les coûts sont ça serait pour un train, si vous voulez, plus traditionnel. Et les coûts, ça dépend comment le nombre d'infrastructures qu'on met, tout ça, mais en 200-300 millions de dollars, on pourrait rétablir le train, un train traditionnel en Victoria, Nanaimo, Courtney. Et ensuite, il y a l'axe qui va à Port-Alberni. Et ça aussi, c'est un autre chiffre. Il faut aller au-dessus des montagnes, si vous voulez, pour se rendre à Port-Alberni. Et ça serait un coût additionnel. Donc, en ce sens, si on veut tout en même temps, c'est presque un milliard de dollars, sinon un petit peu plus, qui devrait être dépensé. Mais ce que la Fondation dit, c'est que il faut faire réaliser les coûts et bénéfices dans l'immédiat et dans le long terme. Et nous, ce qu'on dit, c'est que peut-être on n'a pas besoin de tout faire en même temps. Il faudrait peut-être faire une priorisation, mettre en priorité certains projets. Et je suis content que la province va au moins regarder cette option au sud dans les prochains mois, quoi.
En parlant autour de moi et puis dans ma communauté, les gens ne voient quasiment exclusivement que des bénéfices à la réouverture. Alors des bénéfices sur un point de vue du transport qui pourrait se substituer au transport routier, que ce soit pour le fret ou pour les passagers. Je l'ai dit tout à l'heure, le grand avantage, c'est que l'infrastructure, même si elle est désuète, est existante, ce qui pourrait enlever l'étape d'aménagement primaire, c'est de faire le terrassement. En fait, c'est déjà fait, la piste est déjà ouverte, si on peut dire. Également un avantage au niveau environnemental. Vous parlez de la portion qui va à Port-Alberni, on peut penser aux avantages pour le fret de la sylviculture, de l'industrie forestière. On peut penser aussi à un avantage touristique, ça pourrait être un formidable atout touristique d'avoir une réouverture de ce couloir qui est presque mythique. Ce sont des arguments que vous avancez régulièrement, j'imagine, et j'en oublie certainement d'autres.
Non, absolument. Et je crois que, dans un sens, c'est un choix de société. Vous savez, en Amérique du Nord, on a investi pendant des décennies et des décennies par rapport aux les autos pour les individus, basées de pétrole et tout ça. Et je crois qu'il y a un grand appétit pour changer le modèle. On sait que dans d'autres pays, que les trains et les systèmes de transport en commun sont beaucoup plus avancés qu'ils le sont au Canada. Alors, la question qu'on se pose comme société, c'est si on veut, comme société, changer la culture de comment les gens et comment les produits se déplacent. C'est certain que c'est très engrainé, les gens qui embarquent dans leurs autos et vont n'importe où, mais avec les changements climatiques, avec les coûts et tout ça, on doit se poser la question si c'est le temps de commencer à regarder à des alternatives. Dans ce sens, le couloir, vous avez raison, offre une très belle opportunité de réinvestir de façon à long terme et de changer un peu les habitudes de vie, de réduire les coûts. Si vous considérez tout ce qu'on investit dans les autoroutes et tout ça pour le transport des biens, alors évidemment, c'est la raison pour laquelle les communautés entre Victoria, Courtney, Port-Alberni et les Premières Nations voient un bel avenir. Il y a plusieurs obstacles qui sont devant nous, mais évidemment que l'argument, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on veut faire un changement et améliorer, si vous voulez, le service de transport en commun sur toute l'île?
Effectivement, c'est un chiffre, quand il est jeté comme ça, qui peut faire un petit peu peur, entre 700 millions et 1 milliard de dollars, ça fait beaucoup. Mais je rappellerai à nos auditeurs que les travaux de rénovation de l'échangeur de Mackenzie a coûté à ce jour 1 million de dollars, et uniquement aux contribuables du gouvernement local de Victoria. Et là, le grand avantage de ce projet de réouverture du couloir ferroviaire, c'est que c'est un projet qui va concerner une multitude de gouvernements locaux, de communautés. Donc c'est un projet transgouvernemental, j'allais dire. Puis également, il a l'avantage d'être créateur d'emplois. Si jamais on devait se lancer dans la rénovation de ce couloir ferroviaire, on pourrait imaginer que tous les matériaux dont on aurait besoin, les fonderies, le bois pour la réhabilitation du rail, pourraient être produits ou transformés sur place.
Absolument. Vous savez, il y a un an de cela, le premier ministre de la province a rencontré toutes les maires le long du chemin du corridor, si vous voulez, du couloir. Et tout le monde était d'accord. Ils ont eu une table ronde et toutes les maires, tout le monde était d'accord qu'il fallait réétablir et investir dans ce chemin de fer. Maintenant, on a reçu les coûts et les estimés. Pour certains, bon, évidemment, comme vous dites, ça peut faire un petit peu peur, mais ça, c'est si on avait si on devenait comme Vancouver du jour au lendemain, faire un gros investissement comme la SkyTrain et des choses comme ça. Mais il y a des intermédiaires. On peut commencer. C'est comme quand on rénove une maison, si vous voulez. On peut faire la grosse rénovation et dépenser des centaines de milliers de dollars, ou on peut y aller, à coût de 10 000 ici, 10 000 là, au fil du temps. Alors ça, c'est l'option parce que c'est tout incrémental, si vous voulez. On n'a pas besoin de mettre des plateformes partout comme en Europe, ou si on veut le faire, on peut le faire. Mais c'est ça la question. Et évidemment, c'est dans les prochains mois, ça va être très intéressant de discuter avec les gouvernements provinciaux et fédéraux de leur appétit pour un investissement. On sait que les conséquences de COVID réverbèrent à travers la société présentement. Alors, on va voir s'ils commencent à regarder à des projets de capitaux et d'infrastructures pour remettre l'économie en place. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a un projet qui est prêt à être mis en marche et on a l'appel à la main, quoi.
Un mot pour terminer sur la gouvernance. Vous l'avez dit, on doit peut-être aujourd'hui la survivance du rail sur l'île de Vancouver aux communautés autochtones, au peuple indien. Ils sont aujourd'hui équitablement représentés dans le conseil d'administration, puisqu'il y a 5 représentants des Premières Nations qui représentent aussi leur territoire, qui est traversé par le rail, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, elles sont, vous diriez, l'ensemble des communautés des Premières Nations sont favorables au redémarrage de ce projet et comment vous travaillez avec les communautés indiennes?
Oui, alors on a 14 Premières Nations qui sont membres. Et en effet, 5 sont sur le comité de direction. Et ensuite, il y a 5 districts régionaux. Moi, je représente la vallée de Comox, mais la région de Victoria est représentée. Tous les autres, Nanaimo et Cowichan et tout ça. En termes des Premières Nations, ils étaient les premiers à vouloir sauver le corridor et faire le partenariat avec les districts régionaux. Alors, ça fait longtemps, ça fait 20 ans qu'ils ont lancé ce projet, si vous voulez, d'essayer de sauver le corridor et réinvestir dans les transports en commun. Mais par contre, il y a aussi une frustration qui existe avec les communautés autochtones, dans ce sens qu'il y a eu plusieurs faux départs avec la province et le gouvernement fédéral pour réinvestir dans le corridor. Et pour eux, ça fait aussi 120 ans et ça faisait partie d'une des conditions de créer avec la Confédération et tout ça, ça faisait partie qu'il y a une clause que si le corridor n'est pas utilisé pour le train, que peut-être il pourrait retourner aux Premières Nations, que les terres pourraient retourner aux Premières Nations. Alors, c'est certain qu'il y a certains de nos membres qui disent, ben là, il faut bouger parce que si on ne bouge pas, nous, on abandonne et on veut réclamer ces terres pour nos territoires, ce qui mènerait au bris du couloir, si vous voulez. Alors, il y a un petit peu de complexité par rapport à l'engagement des Premières Nations, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont été vraiment chefs de file par la vision de réinvestir dans ce corridor. Et si on ne le fait pas, je crois qu'il va y avoir des conséquences par rapport au futur du corridor.
Très bien. Daniel Arbon, merci infiniment pour toutes ces réponses, toutes ces précisions. Si on veut suivre l'actualité de la Fondation, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut vous suivre?
Oui, ben vous pouvez soit Allen Corridor Foundation sur Facebook, c'est tout en anglais. Mais quand les rapports de la province sortent, n'hésitez pas à me recontacter. Et pour vos auditeurs, ça me fera plaisir de commenter à nouveau.
Eh bien, on va suivre ce dossier, évidemment, assidûment. Merci beaucoup, M. Arbour, et bonne continuation.
OK, bonne journée.
Et pour aller plus loin maintenant dans ce dossier du couloir ferroviaire de l'île de Vancouver, je reçois le professeur Jean-Thomas Bernard, qui est professeur à la Faculté des sciences sociales à Ottawa, spécialisé en sciences économiques. Monsieur Bernard, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien.
Vous êtes toujours confiné?
Oui. Donc, l'université ne nous permet pas d'aller aller au bureau. Il faut être vraiment une personne essentielle.
Alors, pour nous, vous êtes essentiel puisque vous allez nous parler et nous donner votre expertise sur le sujet du jour, le sujet de cette émission, qui est la réouverture potentielle, le projet de réouverture du couloir ferroviaire de l'île de Vancouver. C'est un projet très intéressant en alternative aux consommations d'énergie fossile aujourd'hui, de la voiture, du pétrole. C'est un projet qui pourrait effectivement avoir un bénéfice environnemental, un bénéfice en termes de transport urbain, de désenclavement. On sait que malheureusement, encore aujourd'hui, la voiture et l'automobile est toujours presque sacralisée en Amérique du Nord. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'opportunité de la réouverture d'un projet aussi petit qu'il soit, aussi j'allais dire modeste qu'il soit, mais qui pourrait permettre effectivement de réduire significativement l'émission de gaz à effet de serre et puis de développer une autre manière de transporter à la fois du fret et des passagers?
Lorsqu'on regarde la problématique de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on sait qu'au Canada, il y a quand même beaucoup de, j'oserais dire, de brouhaha, de discussions à l'égard de l'offre. On parle beaucoup de pipelines, des sables bitumineux et ainsi de suite. Mais ça, c'est le côté offre. Et pour baisser les émissions, il faudra réduire la demande de produits qui font appel au pétrole, au charbon et au gaz. Et évidemment, un grand secteur, c'est celui des transports. Et donc, un projet de cette nature-là peut être intéressant. Il peut être particulièrement intéressant dans le contexte actuel, parce que, il faudra penser à des projets pour relancer l'économie. Donc, ça prend des projets qui sont très prêts à être réalisés. Et ici, on a déjà un tracé, hein, il existe déjà, il a déjà existé une voie ferrée. C'est un projet qui, somme toute, peut être lancé assez rapidement. Il y a d'autres projets qui pourraient être intéressants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Là, on parle parfois de tramway en ville et tout. Mais c'est des projets, ça, qui demandent beaucoup de planification. Et évidemment, il n'y a pas immédiatement une voie dégagée pour recevoir le projet. Donc ici, je crois que c'est un projet qui sera considéré très très attentivement. Et ça cadre bien, je crois, dans le contexte de l'île de Vancouver comme telle. Parce que la capitale, c'est un lieu de service. Hein, donc, les gens se déplacent en automobile pour aller travailler et aussi pour recevoir les services. Donc, être à même de fournir une alternative à un coût raisonnable. Donc, je pense que c'est un projet qui va recevoir beaucoup d'attention dans la relance de l'économie.
Je me permets de vous relancer. Il y a eu un projet, alors peut-être pas similaire, mais peut-être comparable, dans la ville de Waterloo, à Toronto, près de Toronto. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet-là.
Oui, j'en ai entendu parler aussi. Il y a eu un projet qui avait été lancé, je crois, en direction de Hamilton. Puis les résidents se sont opposés. Non pas parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la réduction des gaz à effet de serre, mais ils ont pensé que ça accroîtrait la population dans cette région-là. Donc, ils ne voulaient pas donner accès à des nouveaux résidents.
Effectivement, c'est aussi un risque à prendre, puisque le développement d'une nouvelle voie commerciale et de transport...
Va attirer des personnes, évidemment.
Oui, évidemment.
Si on raccourcit le temps pour se rendre soit au travail ou accès aux services, c'est certain qu'il y a des personnes qui vont s'en accommoder et voudront se localiser.
Il y a aussi un avantage indéniable aujourd'hui, c'est qu'à la fois, vous l'avez rappelé, l'infrastructure est déjà existante, alors même si elle est désuète et qu'elle nécessite des gros investissements pour être remise en état. Mais il y a un autre avantage, c'est qu'effectivement, la main-d'œuvre, l'expertise, mais à la fois la matière première pour la remise en état du rail, du chemin de fer, pourrait être produite ou même transformée sur l'île de Vancouver et génératrice d'emplois.
Oui, disons, il y a certainement des composantes qui vont être fabriquées sur l'île. Mais il demeure que la capacité manufacturière sur l'île, elle est quand même modeste là. Donc, je crois que le gros de l'équipement proviendra quand même de l'extérieur.
Je vous remercie infiniment, professeur, d'avoir pris le temps ce matin pour nous parler un petit peu.
Je vais vous souhaiter une belle journée. J'espère qu'il fait beau chez vous.
Il fait très beau, merci.
Il fait beau à Ottawa aussi, là, quand même 20, c'est acceptable. Oui, oui.
Eh bien,
on regarde beaucoup le même décor, oui, oui.
Espérons que ça dure, et puis merci infiniment.
Pas de problème.
Au plaisir.
Salut!
Et puis pour en parler plus longuement et pour nous donner un éclairage inédit, nous recevons avec nous Margot Landry. Margot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais brièvement rappeler à nos auditeurs ce que vous m'avez confié hors antenne tout à l'heure. Vous êtes arrivé sur l'île de Vancouver en 1975 et vous avez eu la chance de connaître et d'emprunter ce chemin ferroviaire, ce train qui n'existe plus aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous faire revivre quelques souvenirs que vous auriez vécu dans ce train, à bord de ce train?
Oui, certainement. Étant originaire du Nouveau-Brunswick et avoir vécu en Gaspésie, ma famille venait aussi, ici ou bien de mes amis. Et j'aimais toujours, on suggérait, allons faire un tour en train. Alors, on a fait ça. Et aussi, j'ai deux de mes frères qui ont été ingénieurs pour VIA. Alors, un de mes frères est venu à l'Expo 86, là, avec sa copine, puis il dit, ben oui, on va aller faire un tour, mais il est revenu, puis il dit, ma soeur, j'ai de quoi te dire, les chars que vous avez, là, même qu'il va appeler ça, il dit, c'est ça qu'on avait avant, hein, et mon autre frère est venu, puis il a dit la même chose aussi, il dit, on n'utilise plus ça, nous. Alors, si un jour, on a notre voie ferrée de nouveau, j'espère qu'on va avoir mieux que ça, qu'on n'aura pas les restes du Québec.
Oui, il faut espérer que ce ne soit pas les wagons usagés du Québec qui nous soient réattribués, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Est-ce que vous vous rappelez à l'époque le tracé exact du chemin de fer? Il partait de Victoria et il allait jusqu'à Comox, jusqu'à Courtenay?
Jusqu'à Courtenay, il me semble.
Il y avait beaucoup d'arrêts, ça, il y avait, vous vous rappelez des gares?
Oui, il y avait beaucoup d'arrêts. Oui, excusez. Aux gares, là, on arrêtait. S'il y avait des gens qui montaient, même il y avait des gares qui nous permettaient de descendre, juste le temps de descendre et de remonter. Pas longtemps, longtemps. Et on descendait jusqu'à la gare était au pont Johnson.
La gare de Victoria était au pont Johnson.
C'était dans ces environs-là qu'était la gare de Victoria.
Et il y avait également du transport de passagers, évidemment, mais il y avait aussi du transport de marchandises, de fret?
Je dirais pas certain, là. Peut-être que oui. J'espère que oui, hein. C'est pas seulement passagers, mais c'était assez utilisé. Mais le prix, j'ai oublié ce qu'était le prix, hein, mais pour à l'époque, là, c'était dispendieux pour certaines personnes. Puis c'est une chose qu'on parle aujourd'hui, que si on l'a à nouveau, ça va être quoi le tarif pour prendre le train?
Là, on n'en est pas encore à ce stade-là, mais effectivement, ça sera. Je pense qu'il y aura des tarifs en fonction des trajets, puisque le projet de réouverture en fait se divise en plusieurs phases. Il y aurait ce qu'on appelle un commuteur ou un train de ville dans la région du Grand Victoria, puis ensuite pour des trajets plus longs qui desserviraient le nord de l'île jusqu'à Nanaimo et puis peut-être même jusqu'à Courtenay. Donc effectivement, la question des tarifs, ça n'a pas encore été abordé. Pour l'instant, on en est plus à la question de la faisabilité. Vous vous rappelez du temps que ça prenait de faire cette route?
Non, j'aurais dû me demander ça. J'aurais dû faire mes travaux avant. Mais je sais qu'on partait le matin, c'était à 8 heures. Puis on revenait en fin d'après-midi. C'est une journée. Hein? Ouais, il me semble que c'était ça. Là.
Et
je me souviens une dernière fois que je l'ai pris, ma fille est née, notre fille est née en décembre 78. Et mes parents étaient venus en janvier, puis ensuite, un ami de mes parents était venu, puis on avait pris le train pour aller encore, là, pour aller faire un tour. Mes parents l'avaient déjà fait, mais cet ami-là l'avait jamais fait, lui. Puis, il avait bien aimé notre notre tournée.
Est-ce que
c'était agréable de le prendre.
C'était agréable de le prendre. Ça, c'est là, ça, oui. C'était vachement important. Et j'imagine, vous traversiez des paysages. Vous vous rappelez des paysages? Ça devait être très beau.
C'était beau, oui. Puis c'était agréable. Il y avait, quand on arrivait au gare, là, il y avait des gens qui nous attendaient. Il y avait toujours, tu sais, comme quelqu'un, là, comme des gens, c'est comme si on s'arrêtait à Duncan. Il y avait des gens de Duncan qui venaient saluer. C'était de quoi, là, que moi, j'ai habité la ville de Québec, puis je descendais à Nouvelle, en Gaspésie. On vivait pas ça. Ben, quoi que c'était un trajet qui se faisait de nuit, mais c'était de quoi que mes frères avaient remarqué aussi. Il y a dit, les gens sortent pas comme ça chez nous, là, pour accueillir les gens qui venaient.
Alors, ça crée du lien social, quoi. Les gens se rencontraient, ouais, autour du train. C'est vrai que c'était le connecteur social aussi à l'époque.
Regarde, on est sur une île, c'est tranquille ici, hein. Alors, pour des gens, là, ben, c'était bien d'aller voir le train qui arrivait.
Alors, si d'aventure ce projet devait voir le jour, vous êtes habitante de Victoria, vous habitez à Victoria aujourd'hui. Est-ce que vous y voyez un intérêt?
Je le ferais. J'en ai pas besoin, je suis à ma retraite, mais aller faire un tour un jour, et comme j'ai fait dans le passé, quelqu'un qui vient de l'Est, s'ils veulent venir, c'est une manière à voir l'île.
C'est une belle manière de découvrir l'île, oui, c'est vrai. Ça serait... Eh bien, écoutez, on va suivre ce dossier et puis on vous tiendra au courant. Et si vous voulez vous-même vous tenir au courant, vous pouvez toujours écouter Radio Victoria et on aura certainement des nouvelles, j'espère bonnes, concernant la réouverture de ce couloir ferroviaire assez rapidement. Margot Landry, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir. Merci.
À très bientôt.
OK, au revoir.
Et voilà qui clôture votre 9e déjà émission de Regard sur le Grand Victoria. Un grand merci à vous encore, chers auditeurs du 107.9 FM. Je vous retrouve la semaine prochaine, évidemment, mercredi à midi, et puis toujours en rediffusion le samedi matin à 11h sur les ondes de Radio Victoria, et puis également en balado sur le site radiovictoria.ca. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Merci encore et à très vite.